Golden Years, toutes les facettes du rock par Pierre Avril sur Rage.
Rage. Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien sur Rage et voici venu l'heure de Golden Years, l'émission de Pierre Avril dédiée à la culture rock au sens large. Ce soir, j'ai la chance d'avoir comme invité Mathias Nagy. Mathias qui est à la fois donc membre de Avor. Avor, c'est son one man band, on peut même dire. Il a également fait ses classes chez Irgal, voilà. On l'a aussi connu guitariste live de Gorgon par exemple. Et là on va parler de son autre projet, Larve qui vient de sortir un album donc chez Rempart Productions. Et également chez le label grec Metal Throne Productions. Et cet album s'appelle Noise From Beyond. C'est le troisième album déjà de Larve. Et ben, bonjour à toi déjà Mathias.
Bah écoute, bonjour à toi, merci de me recevoir en émission.
Avec un grand plaisir, vraiment, c'est sincère. Alors moi j'ai vraiment adoré cet album, il est d'une noirceur absolue, comment dire. Moi j'ai eu la version Digipack, même le Digipack lui-même est composé essentiellement de noir. Il y a vraiment cette volonté d'aller, on le sent, d'aller au fond des choses. J'ai envie de te demander déjà dans un premier temps eh bien, de nous parler bien sûr de cet album et de nous dire un petit peu voilà, ce que tu voulais faire avec ce disque.
Je dirais que l'idée de base en fait c'était de continuer à faire du vrai black metal.
Ouais.
Dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire lier vraiment la musique, l'idéologie, les paroles, l'artwork, de retourner un peu sur les fondements où tout ça en fait coïncide l'un avec l'autre, ce qui se fait à mon sens plus trop dans le black metal. Maintenant, tout est beaucoup fait à l'attitude et au discours. Et là, l'idée, c'était vraiment voilà, surtout de redonner la dynamique spirituelle à cette musique en fait.
Ouais.
Qui, je pense, s'est perdu ces dernières années en fait.
Ouais. Non, c'est vrai que on en discutait avec Anne justement de Rempart il n'y a pas si longtemps. Voilà, qui, je le rappelle, hein, donc, a signé aussi un deal avec le label grec Metal Throne pour ce disque. Et elle me disait que pour toi, en fait, cet album, c'est une façon aussi, c'est un peu ce que tu nous dis, c'est une façon de renouer avec le black metal du début des années 2000, ce qu'on a appelé par exemple le black metal orthodoxe, occulte en tout cas. Quels groupes de cette période t'ont le plus marqué, toi? Est-ce que, si je cite des noms comme ça, comme Anteus, ou Funeral Mist, ou Offermod, ou Vatain, ou d'autres?
Bah, tu viens de citer voilà, les groupes qui influencent beaucoup. Onscapt aussi, beaucoup.
Onscapt, oui, bien sûr.
Voilà, toute cette scène du début des années 2000 qui s'était vraiment réapproprié le black metal, je pense, après les errances qu'il y avait eu à l'époque.
Ouais.
Qui a remis, je pense aussi, comme je disais, la spiritualité au centre, en fait.
C'est vrai que c'était le but du jeu, ouais, carrément. Et c'est vrai que, je le rappelle, pour les auditrices et auditeurs peut-être un peu plus jeunes, qui n'ont pas forcément connu ces périodes des années 90 et 2000, c'est vrai que, comme le dit Mathias, effectivement, il y avait eu un passage à la fin des années 90 où le black metal avait tendance à devenir mainstream, avec des groupes que vous connaissez tous, hein, comme Cradle of Filth ou Dimmu Borgir, voilà. Et c'est vrai que ce début des années 2000 a été l'opportunité pour ces groupes de cette vague dite orthodoxe de renouer avec un black metal pur et dur, et surtout, comme tu le dis, cette dimension spirituelle. Mais j'aimerais bien, tiens, d'ailleurs, que tu nous en dises un mot pour toi, justement, à travers Larve. Quelle est justement cette dimension spirituelle? Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ça, après, c'est sur un plan plus personnel, mais moi, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, qui imprègne beaucoup ma vie, parfois malgré moi, hein, quand même.
Mm-hmm.
C'est autant quelque chose qui m'apporte beaucoup, mais qui me fait aussi beaucoup souffrir.
Ouais.
En fait, c'est quelque chose qui va, moi, personnellement, me mettre à l'épreuve et m'obliger à aller rechercher des sources, des ressources. Je dirais, à la fois, je la vis et je la subis.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est quelque chose dont je dois apprendre à avoir dans ma vie et à vivre avec. Et toute cette dimension-là, en fait, j'essaye de l'exprimer en musique, en fait, un peu comme un médium, si tu veux.
Oui.
Et c'est aussi pour moi ce que devrait justement être l'essence du black metal, un peu une musique qui sert à plus à communiquer qu'à exprimer, en fait.
Ah, c'est intéressant ça.
Après, oui, c'est. Je dirais que ça apporte son lot de lumière comme de ténèbres, en fait.
Oui.
C'est pas forcément une voie facile, mais. Moi, après, c'est mon chemin de vie, hein. J'incite personne à aller où que ce soit, mais moi, c'est quelque chose qui s'impose à moi, en fait, que je
Ouais.
choisis pas forcément, voilà.
Ouais. Mais bon, pour moi, de toute façon, ce genre de choses ne peuvent que être d'une certaine façon subies parce que c'est pas quelque chose forcément d'agréable, voilà, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais finalement, on peut élargir le propos en se disant que pour moi, d'ailleurs, les vrais artistes, je le dis hein, comme je le pense, pour moi, les vrais artistes sont des gens qui répondent à un besoin plus qu'à une envie en fait, c'est-à-dire que ce besoin de créer, il y a même des moments où ça peut être douloureux et où on n'a pas envie intellectuellement de se mettre à créer, et pour autant, bah, viscéralement, je crois que le mot viscéral va pas mal avec l'art, viscéralement on en a besoin, c'est comme ça quoi, il n'y a pas le choix.
Oui, je pense que bah là, je pense que la création doit, enfin surtout la création artistique, pour moi doit être quelque chose d'extrême en fait. L'art ne m'intéresse pas s'il n'est pas extrême en fait. Et
Ouais.
ça peut être l'art littéraire, hein, comme d'autres formes d'art, hein, comme je sais pas la peinture ou même la musique. Mais pour moi, l'art doit être extrême et naître dans quand même quelque chose d'assez douloureux, d'assez sombre. Sinon, personnellement, moi j'ai du mal à y trouver de l'intérêt.
Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Tu parlais tout à l'heure, hein, donc au début de l'interview, du black metal actuel, en parlant un petit peu de ce qui te correspond plus vraiment dans cette période du black metal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi qui te gêne le plus finalement, ce qui te correspond le moins dans ce black metal actuel?
Déjà, c'est son côté très montreur, en fait.
Mmh.
Ça, c'est venu avec les réseaux sociaux.
Ouais.
Et le black metal, maintenant, a un côté très montreur, a un côté très social. C'est vraiment. Les groupes cherchent la validation du public. On le voit à
C'est vrai.
travers pas mal de posts. On demande les avis, on demande la participation, on demande la validation beaucoup.
Ouais.
Et surtout, ben. Enfin, moi, après, c'est mon point de vue, mais la plupart des groupes aujourd'hui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est des groupes qui vont prôner le satanisme, la rébellion, ce genre de choses. Bon, il y a pas mal de ces groupes que j'ai rencontrés. Les mecs sont des agneaux, en fait. C'est pas des mecs violents, c'est pas des rebelles, c'est des types qui vont bosser le lundi matin, qui payent leurs impôts et qui font ce que l'État leur dit, en fait.
Ouais.
Donc, il y a ce gros décalage, quand même, entre ce qui est montré et ce qui est réellement. Et aujourd'hui, je trouve particulièrement en France, c'est devenu un peu un grand spectacle. On voit des pochettes d'albums, on lit des paroles, on voit des gens sur scène. Et puis quand on rencontre ces gens-là dans le privé, on se rend compte que ben, tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Et c'est ce qui fait que je pense aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de scène française.
Ah, d'accord.
Il reste quelques rares groupes, il en reste deux ou trois, hein, des groupes qui font vraiment ça, je trouve, qui arrivent à aller chercher suffisamment de ténèbres pour faire de la musique intéressante, mais par rapport à il y a quelques années, aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est beaucoup de m'as-tu vu et de, en fait c'est beaucoup d'ego aujourd'hui le black metal. C'est beaucoup d'ego et pour moi, la base de la musique occulte ou de la musique sataniste doit être dénuée d'ego en fait.
Je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que tu parlais de l'impact, bien sûr, des réseaux sociaux, et je pense que ça a été assez catastrophique, hein, en termes d'impact, notamment sur le black metal. C'est clair qu'aujourd'hui, moi j'ai écrit dans un de mes livres, d'ailleurs certains me l'ont reproché, mais je l'assume complètement. Je crois que c'était mon premier livre sur le black metal, dans lequel je disais, et je dis toujours, que pour moi le mouvement black metal était mort. Et que le black metal était devenu en fait un genre musical, c'est-à-dire un des sous-genres du heavy metal, quoi, comme d'autres, hein, comme le death metal, comme d'autres, mais que le mouvement en lui-même, ce qui avait été de l'ordre de, comme tu le disais, hein, d'une espèce de sincérité comme ça, dans la noirceur, aussi d'une prise de risque, parce que c'est quelque chose de dangereux, finalement, de s'impliquer là-dedans, tout ça avait un peu disparu. Voilà, je disais ça dans ce bouquin. Et je trouve que ouais, j'ai l'impression que je me retrouve dans tes paroles, quoi.
Ah mais t'as tout à fait raison. Ça, malheureusement, c'est ce que la société contemporaine fait le mieux, c'est de prendre des styles artistiques qui sont purs à la base et qui vont être corrompus petit à petit par des gens qui n'ont pas forcément quelque chose à faire là, ou par des gens qui fantasment un peu sur cet aspect dangereux de rébellion et qui vont s'en approprier certains codes visuels la plupart du temps, mais qui vont passer à côté de l'essentiel en fait, qui vont passer à côté de la recherche essentielle. Recherche qui se fait davantage dans la vie privé, je pense que à travers la musique, en fait. La musique n'étant que le reflet, en fait, je pense, de ce qu'on vit, en fait, dans le personnel.
Ouais, c'est vrai que c'est un engagement total en fait, cette musique. C'est un engagement qui est là le matin au réveil, le soir au coucher, quand on mange, quand on. Voilà. Tout le black metal, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, je l'ai perçu quelque part je le vois encore comme ça. C'est ça, quand je parlais de mouvement tout à l'heure, c'était pour dire que c'est une philosophie d'existence aussi, qui a son lot de difficultés, parce que c'est quand même une philosophie très très sombre et qui peut être extrêmement violente et douloureuse pour ceux qui s'y voilà, qui s'y impliquent vraiment. Mais finalement, quand on écoute ton nouvel album, ce Noise from Beyond, bah, c'est ce qu'on ressent aussi. On sent que cet album, il est aussi le fruit d'une souffrance quelque part. Il y a quelque chose de ça, je trouve.
Oui, non, mais c'est le cas, c'est né d'une année compliquée, hein, de toute façon. D'une année compliquée, autant sur le plan personnel que sur, comme je disais, pareil, mon rapport à l'occultisme, qui a été une année assez éreintante pour moi, où j'ai beaucoup été mis à l'épreuve à ce niveau-là, où je le suis toujours d'ailleurs, hein, donc oui, forcément, ce qu'il en ressort, comme tu disais au début, c'est un album assez noir, et justement, où même dans l'artwork, j'ai voulu aller chercher ça où il y a voilà où il y a pas forcément le tracklist sur l'album, pas de crédit, même si j'étais accompagné de nombreuses personnes, hein, pour faire cet album, mais voilà, l'idée c'était de recentrer vraiment tout ça sur uniquement la musique et ce qui doit s'en dégager, sans que ça devienne une bagarre d'ego ou une envie de montrer ou de prouver quoi que ce soit, en fait.
C'est hyper important ce que tu dis, je trouve, sur l'ego, parce que tout le monde s'en rend plus ou moins compte. On est dans une époque où l'ego est partout et la société incite en fait les gens à être de plus en plus égocentriques et de plus en plus égoïstes, individualistes, etc. Mais pas dans le bon sens, je trouve, hein, c'est-à-dire voilà, d'être uniquement concerné par les choses matérielles, essayer d'être plus riche que le voisin, etc. etc. Et finalement, moi, je sais pas, j'ai l'impression que le black metal, c'était pas ça à la base, en tout cas. C'était vraiment autre chose. Moi, j'ai connu plein d'acteurs du black des débuts qui gagnaient pas d'argent avec ça, qui avaient des vies difficiles par ailleurs aussi. Pas tous, hein, mais enfin, il y en avait clairement. Et on a parlé justement avec Anne de cette histoire de tu parlais du visuel de l'album avec donc ces trois, je crois que c'est trois panneaux hein, noirs à l'intérieur du digipack. Il y a très très peu d'informations et on sent que tu as voulu vraiment que cet album visuellement soit le reflet de ce qu'on entend, c'est-à-dire une musique qui est totalement noire et qui est voilà, qui doit être vécue profondément et avec une espèce d'engagement de la part de l'auditeur, quoi.
Oui, c'est ça, c'est après maintenant c'est un peu difficile de demander ça aux auditeurs justement, mais parce qu'il faut déjà le temps de concentration sur la musique a considérablement baissé. Donc voilà, là l'idée c'était un peu justement de prendre même ce qui se fait en termes d'artwork à contre-courant aujourd'hui. Pareil, les musiciens aiment bien mettre leur nom, les dates d'enregistrement, les dates de composition, qui a participé, le tracklisting, tout ça. Donc l'idée c'était vraiment de prendre ça à contre-pied. Et comme je disais, vraiment de recentrer ça sur la musique et l'idéologie. Comme je disais, plus que sur les guerres d'ego qui s'articulent autour, en fait.
Je pensais aussi sur un point de vue plus purement musical aussi. Hein, je voulais en parler un peu aux auditeurs. C'est un album qui effectivement a des passages extrêmement violents et rapides, d'autres passages beaucoup plus lourds. Il y a vraiment des passages qui sont limite doom en fait dans l'album, qui sont vraiment très très lourds avec des gros riffs. Et donc j'ai adoré aussi, alors un truc vraiment que j'ai adoré, ce sont les riffs, parce qu'alors tu as sorti des riffs vraiment qui sont, bah déjà qui sont très inspirés, et qui sont vraiment complexes en fait, hein. C'est peut-être pas du rock progressif, mais il y a une vraie complexité dans les guitares, vraiment c'est chiadé, etc. Ça t'a pris beaucoup de temps pour composer, enregistrer tout ça?
Alors la composition, si je me rappelle bien, ça a dû commencer en mars-avril 2025.
Oui.
Et l'enregistrement s'est fait fin novembre, début décembre 2025. Donc en soi, non, l'album a dû être composé sur une période de 5-6 mois à peu près. Mais oui, par rapport au riffing, ce que tu dis, oui, par contre, moi en tant que musicien, il y a eu cette envie d'un peu plus me mettre au défi au niveau de la guitare, en fait.
Ouais. On l'entend, hein, ouais.
J'ai été content de ce que j'avais fait avant avec Occultus Tenebrae, qui a une dimension un peu plus troublaque dans le riffing, entre guillemets un peu
Ouais.
plus simple et un peu plus hypnotique. Là, l'idée, c'était quand même, même si ça reste du black metal, de quand même prendre musicalement, de vraiment se diriger vers ce que j'appelle le metal extrême.
Oui.
Donc dans un sens un peu plus large, avec effectivement des passages peut-être un peu plus death metal par moment,
C'est
d'autres
vrai,
passages un
c'est
peu
vrai.
plus doom. L'idée étant, voilà, en fait, de proposer une musique extrême, bon, qui reste ancrée dans le black metal. Mais oui, au niveau des riffs, pour moi personnellement, oui, ça a été une bonne mise à l'épreuve au niveau de la composition et de l'enregistrement. C'était la volonté de faire quelque chose d'un peu plus complexe et fourni que ce que peuvent proposer, je pense, la plupart des groupes de black metal. Là, il y a une sur la guitare, j'ai passé du temps sur les riffs et sur les arrangements, justement. Alors à
Ouais.
la fois ça a été très limpide de composer ça, mais à la fois ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est un peu paradoxal, mais oui, en tout cas il y a eu cette envie vraiment de pousser le riffing et la technique un peu plus loin sur cet album pour pas bah, déjà pour ne pas refaire le même album tout le temps en fait.
Ouais, et puis tu parlais de death metal tout à l'heure. C'est vrai que dans certains passages, avec certains riffs, il y a des moments où on n'est pas si loin d'un Morbid Angel, par exemple, ou voilà, de groupes comme ça, avec vraiment ce côté un peu tourbillonnant des riffs, et puis en même temps un côté très très occulte, hein. Quand on parle de death metal, là, je parle pas du death metal en short
Ah non,
à la
oui.
plage, hein. On est vraiment dans le death metal sombre, quoi, originel. Et c'est vrai que ça se marie particulièrement bien avec le black metal, et ça donne à cet album une puissance au sonore aussi, parce qu'il est extrêmement puissant, le son est très très fort. Fort, très puissant, sans que ça devienne jamais un son trop actuel, j'ai envie de dire, un son trop compressé ou quelque chose comme ça. On est vraiment dans un son très organique, mais qui est vraiment très puissant. Voilà.
Bah ça, je le dois surtout à donc Sébastien Camille du Art Music Studio, justement, qui lui est quelqu'un de très professionnel en fait, qui peut avoir une approche très moderne du son,
Ouais.
que moi en contrepartie j'ai une approche très à l'ancienne du son en fait. Quand on s'est retrouvé au début des sessions studio et par exemple, qui me demandait vers quel son on voulait s'orienter, moi je lui faisais écouter certains groupes de True Black, lui il me
Ouais.
disait: vu le studio dans lequel on est, on ne va pas aller vers quelque chose entre guillemets d'aussi amateur, mais sans non plus aller vers quelque chose de trop moderne. Donc je
Ouais.
pense justement, lui, il a vraiment réussi à faire ça, c'est à garder justement le côté organique, parce que l'album a été enregistré sur des têtes d'ampli, sur des amplis, on n'est pas passé par des VST comme maintenant tout le monde fait ça, par
Ouais.
ordinateur. Là, on a quand même utilisé du matos moderne, mais on a utilisé une façon de faire qui reste quand même à l'ancienne. Et lui,
Ouais.
après, derrière la console, a très bien travaillé. Et en plus, c'est quelqu'un qui connaît ce style, en fait.
Ouais, non, mais ça
Sébastien, c'est
c'est.
quelqu'un qui connaît le black metal, qui a enregistré des groupes de black metal. Donc lui, il a quand même un vrai savoir-faire là-dessus, justement, pour mixer et le côté organique à l'ancienne et un côté, entre guillemets, plus moderne, ce qui permet d'apporter quand même une certaine grosseur au son et, je trouve, bah, voilà, le fait de mettre les riffs et la musique en valeur. Parce que comme tu disais, vu que les riffs sont compliqués, il n'aurait pas fallu non plus que le son soit trop brouillon, en fait. Sinon, on n'aurait vraiment pas entendu ce qui se passe.
C'est ça. Et je trouve vous avez trouvé avec lui, en tout cas, vraiment un bon compromis, justement, hein, entre cette volonté d'être très pur et en même temps un son qui soit puissant et qui mette en valeur les instruments, et notamment la guitare, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors cet album, il y a autre chose aussi qu'il faut que je dise aux auditrices et aux auditeurs, c'est qu'il est relativement court, parce qu'il fait moins de 30 minutes. Mais bon, il y a de très grands albums dans l'histoire du métal qui sont encore plus courts que ça. Hein. Je pense à Rain in Blood de Slayer, par exemple. Et est-ce que ça a été une volonté de ta part de faire court, ou est-ce que finalement c'est tombé comme ça ?
Non, c'est tombé comme ça. Alors déjà, je suis pas forcément pour les morceaux trop longs, à part s'il y a vraiment quelque chose qui vaille le fait que le morceau soit long, en fait. Souvent, je vois pas mal de groupes qui font des morceaux de 7-8 minutes, mais tout ce qu'ils font, c'est rejouer en boucle des riffs, en fait.
Ouais.
Donc je suis pas forcément pour cette approche. Et après, la durée de l'album, en fait, tout ça, c'est un peu imposé à moi, en fait. J'ai composé les riffs, j'ai composé l'album, et à un moment, je voyais bien que l'acte de composition était terminé, en fait. La connexion que j'ai pu avoir, le temps de composer cet album, avait servi à ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un album de moins de 30 minutes. En fait, voilà, c'est vraiment ce qui est sorti à ce moment-là. Et si j'en avais rajouté, en me disant, allez, faire un ou deux morceaux de plus pour rallonger l'album, je pense qu'il y aurait, les morceaux rajoutés n'auraient pas eu la même dynamique, en fait.
Ouais.
Là, j'ai pris l'inspiration qu'il y avait à prendre et j'en ai, entre guillemets, pas demandé plus, en fait.
Mais
donc voilà, on tombe sur un temps assez court, mais en tout cas, tout ce qui est dessus, je trouve, a été... travailler. Et pour revenir sur le plan spirituel, voilà, je n'en ai pas reçu plus, en fait, donc je voyais pas l'intérêt de juste rajouter pour rajouter.
Très bien. Et c'est vrai que ce qui confirme complètement ce que tu dis, c'est, moi je reprends ma place d'auditeur, c'est que cet album, finalement, quand il arrive au bout de ses 27 minutes et quelques, bah, finalement on n'a qu'une envie, c'est de réappuyer sur play. C'est quasiment une obligation. Moi je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, encore ce matin et tous les jours. Et c'est vrai que, eh bien, à chaque écoute, on découvre de nouvelles choses. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait ce format ramassé comme ça, où il n'y a pas un riff de trop, il n'y a pas de longueur, etc. On est loin des délires de Metallica ces dernières années, donner un exemple. Effectivement, ça donne qu'une envie, c'est d'y retourner et de le réécouter à chaque fois, quoi. Donc c'est parfaitement réussi.
Bah écoute, merci, mais oui, je pense qu'il vaut mieux. En fait, il vaut mieux. Tu prenais l'exemple de Rain in Blood tout à l'heure, mais ouais. Je pense qu'il vaut mieux avoir un album qui est plus court, mais où il n'y a pas de remplissage, en fait.
C'est ça.
Que certains albums où on va trouver, je sais pas, une douzaine de chansons, et au final, il y en a 4 qui sont excellentes, 3 qui sont bien, et puis le reste, après, c'est un peu du remplissage. C'est là pour rallonger la durée. Donc, ça, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Je pense qu'il vaut mieux prendre. On peut mieux prendre le cœur de l'inspiration, quitte à en faire quelque chose de plus court, plutôt que d'essayer de faire un acte de remplissage de l'album qui n'a pas vraiment d'intérêt, en fait.
Je suis parfaitement d'accord avec toi, et je trouve que beaucoup de groupes, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, c'est sûrement le cas, mais pensez-y à cette question-là, à savoir à un moment donné, est-ce que c'est pas suffisant et est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter forcément des caisses. Je voulais te demander, Mathias, tout à l'heure on parlait un peu de ce qui ne te plaisait pas forcément dans le BM actuel, mais je voulais savoir quand même si récemment tu as eu des coups de cœur musicaux ou littéraire, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Est-ce que mais ça peut être dans d'autres genres musicaux d'ailleurs, hein, pourquoi pas?
Alors moi j'écoute beaucoup de styles de musique différents, vraiment. Après je reste quand même beaucoup sur le métal extrême. Alors moi je réécoute en fait beaucoup, mais enfin tous ces vieux groupes des années 80, 90, début 2000, parce que enfin voilà, je trouve la comment les choses étaient faites, la façon de riffer, tout ça, il y avait vraiment quelque chose à l'époque.
Ouais, c'est sûr.
Alors actuellement, il y a toujours des groupes bien. Hein. Pour moi, en France, on a quand même Devecout et Ratten,
oui.
Dont je salue Xavier le leader, qui est un ami qui vraiment, pour moi, sont les deux groupes. Alors Devecout, c'est du Funeral Doom, mais Ratten du black metal, mais je trouve que ces deux groupes qui sont quand même emprunts vraiment de quelque chose de très sombre, et j'aime vraiment ce qu'ils font, et j'aime pareil l'attitude, comme je disais, c'est pas de projets qui courent après l'ego ou le fait de se montrer, c'est des groupes qui restent très secrets, qui restent dans leur coin, et je valide cette dynamique. Et quand même en France, je dois quand même saluer la dynamique de Advance, quand même. Donc je salue Max s'il écoute ça. Qui quand même fait ça depuis longtemps, où il y a quand même une idéologie derrière, où lui-même, je sais que c'est quelqu'un qui s'est mis à l'épreuve pour sa musique, donc on a quand même ces quelques groupes, mais après la majorité aujourd'hui des groupes en France, non, on est beaucoup sur, enfin, on est, en fait, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le black metal, mais qui s'en revendique. Donc oui, des fois je regarde, hein, parce que maintenant tout passe par le format clip, forcément,
Eh oui.
parce que tout passe plus par le visuel que par la musique. Oui, récemment j'ai vu des clips de black metal un peu récents. Bon, je vais pas donner les blazes, mais oui, j'ai moi, entre guillemets, ça me fait un peu sourire, quoi. On voit que c'est un peu, entre guillemets, c'est le métal bon esprit, en fait. C'est le métal bon esprit pour se faire des copains, mais bon, cette mentalité-là, je vois pas vraiment ce que ça va faire dans une musique qui trouve ses racines normalement dans les facettes les plus extrêmes de la vie et de la spiritualité.
Bah, surtout qu'il y a d'autres genres de métal où, au contraire, on peut très bien faire ça pour le fun, etc. Ouais, je veux dire, le folk metal, le power metal, tous ces trucs-là. Il y a des bons groupes d'ailleurs au milieu, hein, mais eux, ils font ça vraiment pour le fun, pour la rigolade, pour faire la fête avec les copains. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que par contre, le black metal, moi, je suis un peu comme toi. À la base, je trouve pas ça spécialement festif, quoi, comme musique.
Alors, comme dit, les autres groupes de métal, comme tu dis, que ce soit le folk, le power, je pense que les bons groupes qui font ça bien sont en fait des groupes qui n'essaient pas de se créer une image, en fait. Les mecs sont comme ça, en fait.
Ouais, c'est
Donc,
ça.
ce qui sort par assez naturel. Le problème du black metal, c'est que c'est quand même une musique qui est née sur un aspect assez rebelle, en fait. C'est quand même une musique qui se place en opposition à beaucoup de choses. Et je pense que cette opposition et ce côté rebelle, en fait, ça va attirer beaucoup de monde. Et comme souvent, ça fait beaucoup fantasmer. Et du coup, je pense que ça attire beaucoup de gens qui n'ont rien à faire là, en fait.
Ouais.
Qui vont utiliser, comme je dis, un visuel, qui vont utiliser un certain discours. Mais est-ce que vraiment, dans leur cœur ou dans leur attitude, les mecs sont comme ça? Non. Mais je pense que de tout temps, voilà, que ce soit pas forcément le black metal, je prends l'exemple des clubs de bikers ou de toutes ces choses-là, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes au niveau de la rébellion, en fait. Notamment Hollywood nous montre beaucoup ça, hein, aussi, hein, les films hollywoodiens nous montrent un très gros fantasme autour de la rébellion.
C'est vrai.
Alors, mais dans les faits, être un rebelle et être à contre-courant, c'est difficile.
Bien sûr.
Et c'est pas pour tout le monde.
C'est
Donc,
un choix, c'est
je
un
pense que
choix
c'est un peu
difficile, ouais.
le souci actuel du black metal, c'est que bah, ça va, ce côté extrême et rebelle va attirer des gens qui fantasment beaucoup là-dessus, mais le moment où il faut se jeter dans le vide, là, on voit que peut-être les convictions ne sont pas aussi sincères que ce qu'ils peuvent en dire, quoi.
Ah mais je partage complètement ce point de vue. Et est-ce que tu es un lecteur? Et si oui, qu'est-ce que tu lis en général?
Alors oui, je lis. Alors j'aime bien certains classiques de la littérature française. Moi, j'aime beaucoup la poésie lyrique. Donc Ovide, Dante, Milton. Mais globalement, ce que je lis est toujours en rapport avec soit la mythologie, soit la théologie, en fait.
Très bien.
Ou des livres concernant l'occultisme et le travail autour de l'ésotérisme et de l'occultisme, en fait. Moi, c'est vraiment. Après, je peux lire des choses plus légères de temps en temps, mais globalement, en fait, je dirais que je lis un peu comme quand je fais de la guitare. Le but, c'est de m'améliorer dans quelque chose. Lire pour me détendre, ou jouer de la guitare pour te détendre, ça m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait une dynamique de progrès, en fait. Si je lis un livre, il doit me faire progresser mentalement, philosophiquement, spirituellement, sinon je vois pas l'intérêt. C'est comme quand je joue de la guitare, il faut que je fasse quelque chose qui va m'aider à progresser en tant que musicien. Jouer de la guitare pour rigoler ou pour se détendre, ça, c'est pas trop mon truc non plus. Dans les choses que je fais, il faut qu'il y ait toujours une dynamique d'amélioration, en fait.
On peut pas dire que tu manques de cohérence, hein. Toi, tu es quelqu'un de cohérent du début à la fin, hein, ça c'est clair. Et pour finir, j'ai une dernière petite question. Bon, allez, l'album vient de sortir, donc c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu as déjà des projets en tête pour la suite?
Oui, concernant Larve, ça va être début 2027, je compte rentrer en studio pour enregistrer un EP, voilà. Donc, je pense que ce sera avec la même équipe. Le truc, c'est qu'après l'album, après la sortie de l'album, enfin après l'enregistrement de l'album qui a été clôturé en décembre 2025, il s'est encore passé pas mal de choses dans ma vie. qui m'ont encore apporté de la matière en fait pour créer des morceaux. Donc ce sera pas un album complet, mais je pense voilà, ce sera on va repartir sur un format pour un petit EP en 2027.
Okay.
Après, en soi, moi, je compose pas mal, j'ai pas mal de projets pour l'art. Le problème étant toujours le même, c'est les studios, le financement et le temps que ça prend au niveau des musiciens.
Bien sûr. On salue d'ailleurs les musiciens qui ont contribué aussi à cet album. Hein. Il y a Nicolas Muller à la batterie et Lucas Gros à la basse.
C'est ça. Hein? Vraiment, là, j'ai été très bien épaulé. Donc, Nico à la batterie, qui, je pense, est déjà pas mal connu dans le paysage métal français.
C'est une brute.
Voilà, il a participé à énormément de groupes. Et puis, c'est vraiment un excellent musicien. C'est un très, très bon batteur. Et puis, c'est quelqu'un, quand même, qui, lui, a vécu toute la scène dont je te parle, en fait.
Ouais.
Les années 2008, il a été là-dedans. Donc, je trouve qu'au niveau de son jeu de batterie, il a vraiment l'approche black metal que je cherche chez un batteur. Et Lucas, lui, est venu m'aider à la basse un petit peu au pied levé, parce que la basse, c'est toujours le sujet épineux, parce qu'en tant que guitariste, on peut être tenté de faire la basse, mais un guitariste n'est pas un bassiste, inversement.
C'est vrai, on l'oublie trop souvent,
Oui, la basse est vraiment un instrument à part entière, hein. C'est pas une guitare à quatre cordes.
Non.
Donc, j'ai été un petit peu en galère sur la basse, et puis lui, on se connaissait déjà, ce qu'il joue dans DCATS, qui est un groupe de niçois de death metal. On a vu quelques concerts avec eux à l'époque où je jouais dans Gorgon et Irial. Donc, je l'ai appelé, il était disponible et motivé. Lui, excellent bassiste, hein. Il est arrivé en studio avec quand même assez peu de préparation. Et puis vraiment, il a vraiment fait du super boulot. Hein. Le mec joue hyper bien, il connaît son matos, il a super idées.
C'est génial.
Il est très adaptable. Donc là, je suis vraiment content de cette équipe. Donc en tout cas, pour le travail studio, je pense que je vais rester avec eux un petit moment parce que ça s'est très bien passé et on change pas une équipe qui marche bien comme ça, surtout en studio.
Alors, chers auditeurs, donc n'hésitez pas à aller faire un saut sur le Bandcamp de Rempart Productions pour écouter déjà l'album de Larve. Et puis bon, moi je vous conseille quand même grandement de vous le procurer, parce qu'un album de cette qualité-là, on se doit de l'avoir chez soi. Pour moi, c'est une évidence. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire la playlist, comme chaque mercredi, la playlist qui va être bien sûr dédiée à Larve ce soir. Merci beaucoup Mathias pour cette interview.
Bah écoute, merci à toi aussi d'avoir pris le temps et de continuer à t'investir comme ça pour cette musique. Il en reste peu.
Bah écoute, je crois que ça serait à la vie, à la mort, hein, j'ai l'impression. Je peux pas faire autrement.
De toute façon, passer un certain âge, si t'es encore là-dedans, c'est que ça va durer un bon moment, quoi.
Ça fait 40 ans que ça dure, donc je crois que je ne changerai pas maintenant. Mais merci de me le dire, ça me touche. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, bien sûr, dans ta vie, dans ton œuvre. Je te souhaite surtout de continuer à nous régaler avec des disques comme ça, parce que vraiment, on en a besoin. Et puis, je te dis à bientôt, tout simplement.
Eh ben, merci à toi. Make every living thing pass away.
place à la fête.